de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Un membre du Parlement exhorte le ministre Bahlil à investir dans les matières premières médicinales. Les cas sont en baisse. Un certain nombre de régions en Inde assouplit le confinement. Une mine terrestre explose en Afghanistan, 11 personnes tuées, dont des enfants. Infection fongique noire indienne détectée dans 4 autres pays. Les États-Unis feront don de 750 000 vaccins COVID-19 à Taïwan. Le premier ministre britannique demande au G7 de vacciner le monde en fin 2022. L'APEC discutera de la proposition de supprimer les tarifs d'accélérer la distribution des vaccins COVID. Bon, chers auditeurs, voici les journaux incomplets. Le membre de la commission 6 du Parlement en charge de l'investissement, Mufti Anam, a encouragé le ministre de l'investissement, Bahlil Lahadalia, à réaliser l'investissement à grande échelle dans le domaine des matières premières médicinales, car 90% des matières premières médicinales de l'Indonésie sont encore importées. Mufti Anam a déclaré dimanche à Jakarta que c'était la deuxième tâche dure pour Bahlil après avoir été l'une des parties chargées de superviser la réalisation de l'Indonésie en tant que centre de l'industrie mondiale des batteries de véhicules électriques. Il a déclaré que l'expérience de la pandémie de COVID-19 a rendu difficile pour le peuple indonésien l'obtention de matières premières médicinales car le commerce mondial est perturbé par la pandémie, notamment en provenance de l'Inde et de la Chine, comme l'une des plus grandes sources de matières premières médicinales importées. En effet, l'Indonésie est très riche en biodiversité, tant sur terre qu'en mer, qui peut être un potentiel pour les matières premières médicinales. Il a encouragé le ministère de l'Investissement à créer une synergie avec de nombreuses parties pour pouvoir réaliser des investissements dans l'industrie de matières premières médicinales. Plusieurs États indiens commencent maintenant à assouplir leur confinement après que le cas de COVID-19 dans leur région ait commencé à diminuer. Le nombre quotidien de cas atteints sont au plus bas niveau en près de 2 mois. Rapporté par Reuters dimanche dernier, l'un des premiers à assouplir la politique est la capitale New Delhi, où les magasins sont autorisés à ouvrir alternativement tous les jours en fonction du numéro de magasin. Les bureaux privés sont également autorisés à fonctionner à nouveau avec 50% de leur capacité normale. Pendant ce temps, le train à grande vitesse métro de Delhi a également pu reprendre du service avec une capacité de 50%. Le ministre en chef de New Delhi, Arvind Kejriwal, a déclaré qu'il était très important de rétablir l'économie une fois que la situation de COVID-19 s'est améliorée. On sait que depuis samedi, New Delhi a signalé environ 400 nouveaux cas quotidiens contre environ 25 000 cas quotidiens lorsque le confinement a été annoncé il y a 7 semaines. Un véhicule qui a marché sur une mine terrestre dans le nord de l'Afghanistan a explosé. Au moins 11 civils, dont des enfants, ont été tués dans l'incident. Signalé par Reuters dimanche dernier, l'explosion s'est produite samedi, heure locale, quelques heures avant que de hauts dirigeants talibans et des responsables de l'Organisation des Nations Unies se rencontrent au Qatar pour discuter du processus de paix en Afghanistan et de la sécurité des diplomates et des personnes travaillant pour des agents humanitaires en Afghanistan. Le gouverneur de la province septentrionale de Badghis, Hussamuddin Sham, a déclaré que 11 passagers, dont 3 enfants, se rendant dans la ville de Kalaenau, ont été tués dans l'explosion. Le gouvernement local accuse les talibans d'être impliqués dans la pose de bombes anti-mines. Cependant, aucun groupe militant n'a encore revendiqué la responsabilité de l'attaque. L'infection mortelle du champignon noir mucormycose, qui a été signalée pour la première fois en Inde, a été détectée dans au moins 4 autres pays. Tels que cité par republica.co.id dimanche, de nombreux cas ont été signalés dans des pays d'Amérique du Sud, comme le Chili et l'Uruguay, et des pays du Moyen-Orient, comme l'Égypte et l'Iran. La Société chilienne d'infection indique que des cas au Chili ont été détectés depuis le début de la pandémie, mais que la fréquence augmente et que les cas graves deviennent de plus en plus fréquents. Les autorités uruguayennes ont également confirmé le cas chez un patient de 50 ans qui s'est remis de COVID-19. La mucormycose est une infection fongique rare qui affecte principalement les personnes dont le système immunitaire est affaibli, provoquant une perte de vision, et certains patients doivent subir une ablation du nez et de la mâchoire. Les États-Unis feront don de 750 000 doses du vaccin COVID-19 à Taïwan. Cela a été transmis par le sénateur des deux principaux partis américains, Tammy Duckworth et Christopher Kuhn, du Parti démocrate, et Dan Sullivan du Parti républicain, qui a atterri à l'aéroport de Taipei-Chongshan à Taïwan. Duckworth a déclaré que les États-Unis avaient inclus Taïwan dans la liste du premier groupe à recevoir un vaccin COVID-19. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, lorsqu'il a accueilli la visite des sénateurs à Taïwan, a déclaré que Taïwan faisait face à des défis dans la lutte contre le virus corona. Et maintenant, Taïwan a du mal à obtenir un vaccin pour ses 23 millions d'habitants. Le premier ministre britannique Boris Johnson a appelé samedi les dirigeants des pays riches du groupe des 7 à s'engager à vacciner le monde entier en fin de 2022 lors de leur rencontre en Grande-Bretagne la semaine prochaine. Johnson accueillera le sommet. Il a déclaré qu'il s'engagerait à atteindre les objectifs mondiaux de vaccination. La vaccination du monde à la fin de l'année prochaine sera la plus grande réussite de l'histoire. Johnson a déclaré dans un communiqué qu'il appellerait ses collègues dirigeants du G7 à unir leurs forces pour mettre fin à la terrible pandémie. Les dirigeants de l'Allemagne, de la France, des États-Unis, de l'Italie, du Japon, de l'Union européenne et du Canada se joindront à Johnson pour un sommet de 3 jours à Cornwall, dans le sud-ouest de l'Angleterre, qui débutera vendredi. Ce sera le premier voyage à l'étranger du président américain Joe Biden depuis son entrée en fonction en janvier. Les ministres du groupe commercial Asie-Pacifique APEC devraient discuter samedi d'une proposition présentée par la Nouvelle-Zélande visant à supprimer les tarifs sur les vaccins COVID-19 et les produits médicaux connexes, bien que certains membres considèrent le plan trop ambitieux. Dans une démarche qui pourrait réduire les retards dans les livraisons de vaccins plus larges, La Nouvelle-Zélande a souhaité que les 21 membres de l'APEC s'entendent sur des lignes directrices, sur les meilleures pratiques, sur la circulation des vaccins et autres produits médicaux connexes dans un contexte transfrontalier. Comme l'a déclaré à Reuters, une source proche des discussions, la Nouvelle-Zélande estime qu'un accord est nécessaire pour montrer que l'APEC est réactive et pertinente face à la crise à laquelle le monde est confronté. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le commentaire. Intitulé « Annulation des pèlerins du Hajj en Indonésie 2021 ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chargé du tard, le gouvernement indonésien a officiellement annulé le départ des pèlerins du Hajj pour 2021. Le ministre indonésien de la Religion, Yaqut Khalil Qomas, a déclaré que cette décision était amère, mais pour le mieux. La considération est, entre autres, que les musulmans qui veulent effectuer le pèlerinage doivent être économiquement et physiquement capables. Pour cette raison, il faut être certain d'assurer la santé, la sûreté et la sécurité des pèlerins indonésiens pendant le voyage et pendant leur séjour à la Mecque, en Arabie Saoudite, où se déroule le rituel du pèlerinage. Actuellement, la menace de la pandémie de COVID-19 et de ses nouvelles variantes engloutit toujours la quasi-totalité du monde, y compris l'Indonésie et l'Arabie Saoudite. Le gouvernement indonésien est responsable de la sauvegarder et de la protection de ses citoyens, tant au pays qu'à l'étranger, contre les dangers de COVID-19. D'autre part, en raison de la pandémie de COVID-19, à l'échelle locale et mondiale. Le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite n'a pas encore ouvert l'accès aux services d'organisation du pèlerinage cette année. D'un autre côté, le gouvernement indonésien a besoin d'un temps considérable pour préparer la mise en œuvre du pèlerinage du Hajj, qui culminera vers le 20 juillet 2021. Ce sera la deuxième année pour les pèlerins indonésiens du Hajj à devoir annuler leur voyage en Terre Sainte. Pour le pays avec la plus grande population musulmane au monde, ce problème est certainement assez grave. La queue d'attente des pèlerins qui partiront pour le Hajj sera encore plus longue compte tenu du système de quotas imposé par l'Arabie Saoudite. Bien sûr, cela provoquera indirectement des troubles, en particulier pour les pèlerins âgés. La principale préoccupation est de savoir s'ils auront le temps de s'acquitter de leurs obligations en tant que musulmans d'aller en Terre Sainte avant que la mort ne les appelle. À un moment comme celui-ci, le gouvernement devrait intensifier la communication avec le public sur les raisons de l'annulation du départ des futurs pèlerins du Hajj. Le rôle des ulémas est nécessaire pour expliquer d'un point de vue religieux afin que les gens puissent accepter cette situation indésirable avec grâce. Bon, cher Joïtar, c'est tout le commentaire.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 7 juin 1952. Naissance d'Orhan Pamuk. Cher Jolitar, Ferit Orhan Pamuk est un écrivain turc de premier plan dans la littérature postmoderniste. Il est très populaire dans le pays et ses lecteurs dans le monde ne cessent de croître. En tant que l'un des romanciers les plus éminents d'Eurasie, Ses œuvres ont été traduites dans plus de 40 langues. Il a reçu de nombreux prix tant au pays qu'à l'étranger. Chers amis, on continue avec l'événement du 7 juin 1999. L'Indonésie a tenu ses premières élections générales dans l'ère des réformes. L'élection générale de 1999 du Conseil représentatif du peuple et du Conseil représentatif du peuple régional a eu lieu simultanément le 7 juin 1999 pour élire 462 membres du Conseil représentatif du peuple et des membres du Conseil représentatif du peuple régional, provincial et de régence ou la ville. Dans toute l'Indonésie pour la période 1999-2004. Cette élection générale était la première à avoir lieu après l'effondrement de l'ordre nouveau et aussi la dernière participation de la province du Timor oriental. Cette élection générale a réuni 48 partis politiques, couvrant presque tous les spectres d'orientation politique. La détermination de sièges s'effectue proportionnellement en fonction du pourcentage du vote national. Chers amis, on finit l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 7 juin 2001. La Charte pour la création de l'Organisation pour la démocratie et le développement économique a été signée. L'Organisation GUAM pour la démocratie et le développement économique est une organisation régionale des quatre anciens États soviétiques. La Géorgie, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan et la Moldavie. La charte du GUAM a été signée lors d'une réunion à Yalta du 6 au 7 juin 2001 par quatre de ses membres et l'Ouzbékistan qui est ensuite parti. Selon le président ukrainien Viktor Loutchenko, la charte définit les objectifs de la coopération tels que les valeurs démocratiques, la garantie d'un développement stable, la promotion de la sécurité internationale et régionale et l'aide à l'intégration européenne. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Jangan sembunyi-sembunyi, bila kau ingin kita berjalan sendiri-sendiri.
Janganlah kau tahan-tahan. katakan saja, sudahlah cepat selesaikan.
Katakanlah saja.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie ayant pour le titre L'Indonésie est capable de devenir le plus grand producteur de produits halal au monde. Le vice-président Ma'ruf Amin a inauguré l'exposition en ligne « Les industries musulmans d'Indonésie » e-motion depuis Jakarta jeudi le 3 juin. Dans ses remarques, Ma'ruf Amin est optimiste que l'Indonésie deviendra le plus grand pays producteur de halal au monde avec divers potentiels et un soutien gouvernemental. Le vice-président a expliqué que le gouvernement préparait le plan directeur économique de la charia indonésienne 2019-2024 avec quatre stratégies principales qui avaient été définies. Premièrement, renforcer la chaîne de valeur halal comprenant l'industrie des aliments et des boissons halal, l'établissement halal, la mode musulmane, les médias et les loisirs halal, la pharmacie et les cosmétiques halal et les énergies renouvelables. Trois autres stratégies définies par le gouvernement dans le plan directeur sont le renforcement du secteur de la finance charia, le renforcement des micro, petites et moyennes entreprises, et l'utilisation et le renforcement de l'économie numérique. D'après les données du World Population Review, le nombre de musulmans dans le monde atteint 1,9 milliard de personnes. L'Indonésie a la plus grande population musulmane. Selon le vice-président, cela montre que l'Indonésie a un grand potentiel de marché pour les produits musulmans. Il a souligné que l'Indonésie souhaite également devenir le plus grand producteur et exportateur de produits halal au monde. Par conséquent, Ma'ruf Amin a demandé au ministre concerné d'encourager l'Indonésie à devenir un producteur halal mondial dans le secteur de l'alimentation, des boissons, de la mode, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et du tourisme. Cette exposition vise à encourager la promotion et la publication de produits musulmans indonésiens pour qu'ils soient de plus en plus connus du monde. À la même occasion, le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, a déclaré que son ministère encourageait également la croissance de la petite et moyenne industrie des produits musulmans dans le bout de fer de l'Indonésie, le plus grand producteur de produits halal au monde. Pendant ce temps, la directrice générale des petites, moyennes et diverses industries du ministère de l'Industrie, Gati Wibawaningsi, a déclaré que le besoin du public des produits et des services étiquetés comme halal augmente de plus en plus. Selon elle, le vaste marché potentiel de l'industrie mondiale des produits halal n'est pas seulement contesté par les pays à majorité musulmane comme l'Indonésie et la Malaisie. Des entreprises de Chine, de Thaïlande, des Philippines, du Japon, de Corée du Sud et d'Australie produisent également des produits halal. Cependant, elle pense que l'Indonésie est capable de prendre part au marché des produits halal, au moins en tant qu'acteur majeur en Asie. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Semua kebaikan untuk sesama.
Bagikan semua kebaikan untuk sesama. Dan berhentilah buang-buang waktumu percuma. Berbagilah, bagikan semua kebaikan.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation, ainsi que les arts et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous présenter le parc préhistorique de Liang Liang, Sulawesi du Sud. Le parc préhistorique de Liang Liang, ou également connu sous le nom de parc archéologique de Liang Liang, est l'une des principales attractions touristiques de la résidence de Maros, qui propose des visites historiques de la culture de l'ancienne civilisation humaine. Des peintures de pommes humaines et de chefs cochons, l'attrait sur les murs de la grotte et divers artefacts témoignent de la présence d'humains préhistoriques dans cette région. Dans ce parc, il y a des centaines de grottes préhistoriques dispersées dans les collines de Maros Pangkep. Les fresques des grottes de Petae et de Petakere ont été découvertes pour la première fois en 1950 par des archéologues néerlandais Van Ikeren et Miss Heren Palm. Cette grotte est le début des recherches sur les grottes préhistoriques et le début de la découverte des peintures trouvées dans la résidence de Maros. Pour atteindre la grotte de Petae, les touristes doivent monter des escaliers pas trop hauts. La grotte de Petakere est située à environ 300 mètres de la grotte de Petae. Dans la grotte de Petae, il y a des peintures sous la forme de 5 images de pommes, une image d'un chef cochon sautant avec une flèche dans la poitrine. À l'entrée de la grotte qui fait 8 mètres de haut et 12 mètres de large, il y a des éclats de lames et des coquillages. Pendant ce temps, dans la grotte de Petakere, des images de chef cochon, 27 images de pommes, de flocons de lames et de pointes de flèches ont été trouvées. Pour vous rendre dans ce parc, si vous êtes au centre-ville de Makassar, la distance à parcourir est de 30 km au nord de la ville de Makassar à Maros en utilisant un véhicule motorisé. Pendant ce temps, de Maros au sud est de 13 km, soit environ 45 minutes car la route n'est pas bonne. Lorsque vous arrivez dans ce parc, vous devez payer un ticket de 10 000 rupiah. Dans ce parc préhistorique, un parking pour les visiteurs qui utilisent des véhicules privés ainsi que des belvédères pour les visiteurs qui souhaitent se reposer après avoir visité les grottes de ce parc sont également disponibles. Chers auditeurs et auditrices, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « Le parc préhistorique de Liang Liang, Sulawesi du Sud ». Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet, je veux dire avec un nouveau sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Semua kau tak padamkan harapan, tapi cinta tak juga kau katakan. Oh, bila benar bukan akulah orangnya, jangan kau tunda.
Padamkan harapan, tapi cinta tak juga kau katakan.
C'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute!
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion étrangère de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, le ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Sakit, sakit en français malade. Je vais vous donner une conversation dont le titre est Nomor antrian berapa sekarang? Je répète. Nomor antrian berapa sekarang signifie quel est le numéro de file d'attente maintenant? Bonne écoute. C'est une conversation entre Kevin et le personnel du clinique. Kevin a posé une question à l'infirmière sur le numéro de file d'attente de patient qui avait été examiné.
Nomor antrian berapa sekarang, Bu?
Pasien yang diperiksa.
Iya.
Sekarang nomor 29.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Nomor antrian berapa sekarang? Je répète. Nomor antrian berapa sekarang signifie quel est le numéro de file d'attente maintenant? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Nomor antrian. Nomor antrian signifie numéro de file d'attente. Berapa? Berapa signifie combien de? Nomor antrian berapa sekarang, Bu? Nomor antrian berapa sekarang, Bu? Signifie quel est le numéro de file d'attente maintenant, madame? Sudah nomor berapa, Bu? Sudah nomor berapa, Bu? Signifie quel est le numéro, madame? Patient. Patient signifie patient. Diperiksa. Diperiksa signifie être examiné. Pasien yang diperiksa. Pasien yang diperiksa signifie le patient examiné. Sekarang nomor 29. Sekarang nomor 29 signifie maintenant numéro 29. Dans la conversation, vous entendez la question: nomor antrian berapa sekarang, Bu? Je répète. Nomor antrian berapa sekarang, Bu? Signifie quel est le numéro de file d'attente maintenant, madame? Dans cette question, il y a un mot de question: berapa? Berapa signifie combien. Le mot de question: berapa? Je répète. Berapa signifie combien est utilisé pour demander des nombres tels que la taille, la valeur, le prix, l'unité, l'heure, le nombre de numéros de séquence. Dans la question posée par Kevin, il voulait connaître le numéro du patient examiné. Il a donc utilisé le mot « sekarang ». « Sekarang » signifie maintenant. Par exemple, « Nomor antrian berapa sekarang, Bu ?» Je répète. Nomor antrian berapa sekarang, Bu? Signifie quel est le numéro de file d'attente maintenant, madame? Un autre exemple. Écoutons un autre exemple de question pour demander quel numéro de série utilise le mot berapa. Sudah nomor berapa, Bu? Sudah nomor berapa, Bu? Signifie quel est le numéro, madame? 29. 29 signifie 29. Sekarang nomor berapa, Bu? Sekarang nomor berapa, Bu? Signifie maintenant quel est le numéro, madame? Sekarang nomor 29, Pak. Sekarang nomor 29, Pak. Signifie maintenant numéro 29, monsieur. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour mieux comprendre, écoutons encore une fois la conversation.
Nomor antrian berapa sekarang, Bu?
Pasien yang diperiksa.
Iya.
Sekarang nomor 29.
Chers amis, voilà l'émission apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention. Au revoir.
chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et je vais vous présenter une chanson kroncong intitulée Romansa, chantée par Soekardi. Chers auditeurs, cette chanson parle de quelqu'un qui se souvient de son parcours de vie en bel adolescent, en temps qui ne peut pas être répété. À cette époque, on partait à l'aventure, traversait des vallées verdoyantes, escaladait des sommets et recherchait l'amour. Cette chanson est incluse dans l'album Kroncong Kenangan Bintang Kroncong en 1983-1984. Bon, chers auditeurs, voici Soekardi va chanter une chanson intitulée Tinggi Gunung Seribu Janji, Romansa. Bonne écoute.
Thank you.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.